France Culture.
h 13h30, les midis de culture. Antoine Léris.
Bienvenue à toutes et à tous pour ces midis de culture. Tout à l'heure, je recevrai l'autrice Chloé Corman, Maître au monde et son cinquième roman. Une très belle plongée dans la maternité et cette sensation assez exceptionnelle de l'accouchement. Mais d'abord, on va commencer cette émission avec le plateau critique quotidien, l'occasion de s'écharper un petit peu. Aujourd'hui, deux autrices qui s'emparent des manifestations du fascisme contemporain. Alors, du côté du quotidien et de la fantaisie, on a 70 fantômes. Chose vue de l'autrice Nathalie Quintane, parue à La Fabrique. Et du côté de la satire politique très burlesque, on a Nerona de l'autrice Hélène Frappa, parue chez Actes Sud. Vous écoutez les Midis de Culture et c'est très bien comme ça. Et pour débattre autour de la table ou s'accorder, qui sait, on pourrait avoir des surprises, j'accueille Johan Farber, éditeur essayiste, critique littéraire. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et puis Romain de Bec de Lièvre, auteur, conseiller dramaturgique et producteur à France Culture. Bonjour Romain.
Et bonjour Antoine.
Bonjour à tous les deux. On écoute quelques mots de 70 fantômes pour débuter.
C'est là que ma collègue rectifie. Lui, c'est un authentique faf. Je le revois parlant aux parents à la réunion de rentrée. Il avance à petits pas, un peu courbé, main jointe à hauteur de torse, penché vers eux comme un jeune Dracula vers des poules, et il articule en détachant bien chaque syllabe, parsemant ses phrases en français de mots dans la langue étrangère qu'il enseigne, avec des montées de voix, des démarrages en côte, et un mouvement de ses mains jointes de haut en bas, écartant les paumes de temps en temps afin que le bout des doigts de sa main gauche vienne au contact du bout des doigts de sa main droite, devant les parents, attendant sagement qu'il en ait fini. Alors, il lance un retentissant « au revoir » dans la langue étrangère qu'il enseigne et se carapate, à petits pas, vers la porte d'entrée dans sa chemise éternelle à carreaux.
On avait quitté Nathalie Quintane au printemps dernier avec son livre « Chemoule », un chat français consacré au matou qui partage sa vie. La revoilà avec un livre qui traque au quotidien les apparitions du fascisme, ce qu'elle appelle des « flashs ». Dans « 70 fantômes, chose vue », paru aux éditions La Fabrique, l'autrice enchaîne les très courts chapitres comme autant de scénettes pour saisir ce moment où quelque chose se passe, ou alors va se passer, ces signaux faibles d'un fascisme déjà à l'œuvre dans nos vies. Elle raconte avoir débuté l'écriture de ce texte après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Juste une petite phrase pour nous dire, Johan et Romain, ce que vous avez pensé de ce roman.
Oui, moi c'est un texte que j'ai trouvé formidable, enfin vraiment qui m'a beaucoup emporté. Nathalie Quintane, elle travaille une forme qu'elle emploie depuis assez souvent, qui est la forme très simple de la remarque, et qu'elle applique là, dans l'observation, à ce qu'on pourrait appeler un déjà-là fasciste ou un déjà-là faf.
Johan ?
Oui, je trouve aussi que c'est un texte remarquable, remarquable littérairement et politiquement. On a ce qu'elle appelle dedans le fascisme de la poire et du fromage. Et c'est ce qu'elle appelle aussi, je trouve, et qu'elle travaille depuis le début, une fantaisie réaliste et critique.
Justement, Johan, qu'est-ce que ça veut dire, ce fascisme de la poire et du fromage?
Alors, vous l'avez rappelé très justement, effectivement, ce texte, elle l'a débuté en juin 24, au moment de la dissolution, et au moment où, comme elle le dit, il y a eu 3 semaines où elle a eu peur que le Rassemblement national gagne les élections après avoir remporté largement les élections européennes. Et se passe en fait pour elle toute une série de scènes, hein, elle le dit, il y a une 60aine de scènes qui sont autant de flashs de ce qu'elle va appeler en fait dans l'entre-deux-tours une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que va se déployer ici ce que Gramsci, un théoricien marxiste, a théorisé à propos du fascisme mussolinien, un clair-obscur. Et dans le clair-obscur, dit Gramsci, naissent des monstres. Et ici, c'est précisément non pas des lignes très claires qui se dessinent hein, dans cette petite ville des Alpes du Sud dans laquelle elle vit, mais des lignes troubles, des lignes qu'elle ne parvient pas à interpréter. C'est-à-dire qu'elle voit des gens qui ont des lunettes carrées, elle voit des élèves qui ont des coupes de cheveux plaquées à la gomina sur des coupes de footballeurs, elle voit des gens qui ont des bérets, et elle se dit, tiens, Est-ce que ce sont des signes du fascisme ou est-ce qu'au contraire, moi, je surinterprète? Et la grande force de ce livre, c'est que ce quotidien, la poire, effectivement, et le fromage, est-ce que finalement, ce n'est pas un trop grand mot que ce mot de fascisme? Est-ce qu'il ne faut pas justement, le fascisme, c'est ce qu'on retient de ce texte, et ce qui, pour moi, fait sa force, c'est que le fascisme n'est pas si sûr. C'est pas un trait très distinctif, c'est un mot trop grand, en fait, pour l'époque que l'on vit. Et pour Nathalie Catan, elle le dit, on n'est pas en dictature. La dictature, on n'y est pas. C'est pas vrai du tout, c'est totalement faux, c'est un contresens politique. Mais de la même façon, quand on lui pose la question de savoir si on a une démocratie, elle peut pas véritablement répondre, parce que précisément, elle le dit très bien, elle commence à surveiller ce qu'elle dit au téléphone. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, qui montrent que précisément, on est dans quelque chose qui est une sorte de fascisation, plutôt que de fascisme, c'est-à-dire un processus plutôt qu'un produit fini.
Romain de Bec-de-Lèvre, comment vous avez vécu ce voyage dans cet entre-deux, justement, là où naissent les monstres?
Et c'est ça qui est passionnant, c'est que Nathalie Quintane, elle s'était singularisée, elle, par une écriture de ce qu'elle appelle la remarque. Un de ses premiers livres s'appelait Remarque. Et en fait, elle faisait des remarques très simples, qui est que, par exemple, quand on marche, on a toujours un pied qui est derrière l'autre, et on ne voit qu'un seul pied. Et là, elle applique ce dispositif qui lui a valu d'être rangée dans les littératures d'avant-garde, alors que c'était de la littérature très simple et très frontale. Elle applique ça au fascisme, et c'est justement l'absence de contours, ce que disait Johan. Elle dit à un moment que l'absence de contours, c'est ce qui nous pose des problèmes. Et donc, pour aborder ce phénomène-là, elle l'aborde vraiment par en dessous, vraiment par l'observation, vraiment par une écriture de la remarque. Et c'est cette soixantaine de petits chapitres très courts, c'est vraiment une page de page, emploie une palette formelle que j'ai trouvée hallucinante, c'est-à-dire elle emploie des ressorts de la littérature qui vont du récit des envahisseurs, vraiment dans un truc de science-fiction, c'est-à-dire les fascistes sont un peu comme des envahisseurs, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce que ma voisine a la piscine, est-ce qu'elle en est, des questionnements comme ça, des scènes du quotidien, des scènes complètement fantaisistes, délirantes, il y a une scène notamment qui se passe pendant la cérémonie d'ouverture des JO avec Aya Nakamura, et voilà, et donc elle va employer tout un répertoire formel qui récapitule beaucoup de choses de son œuvre, parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle aussi « Les enfants vont bien », où il y a la question qui traitait de la question migratoire et des associations qui ont affaire à la prise en charge des migrants. Et on sent qu'elle récapitule, ou plutôt qu'elle réarme un peu plein de dispositifs qu'elle avait littérairement pour l'appliquer là au fascisme. Ça donne un texte qui est très souvent désopilant. Moi, j'ai vraiment... Enfin, il y a eu des moments où j'étais mort de rire, quoi. Je pense à un texte qui s'appelle « Merde, virgule, un con ». Elle promène son chien, elle croise un homme qui promène son chien aussi, elle se doute qu'il a des opinions politiques un peu étranges, elle se dit « merde, un con ». Et comme elle écoute France Culture, on le sent un moment, elle dit à la radio, à France Culture, ils disent qu'il faut aller parler à ces électeurs-là, il faut leur tendre la main et aller les voir. Donc elle le fait littéralement, c'est-à-dire elle rentre chez ce monsieur et elle va lui parler. Je ne dis pas comment ça finit, mais voilà, elle a un dispositif là qui est très très frontal de « je vais appliquer ce que j'ai entendu à la radio ». Et on ne sait pas si on est dans la fantaisie, l'imagination ou si elle le fait vraiment. Mais elle joue donc sur tout ce registre-là pour vraiment essayer de saisir qu'est-ce qui se passe.
C'est parfois la limite aussi des films à sketch ou des livres à sketch. Est-ce qu'elle arrive malgré tout à tisser une matière littéraire de toutes ces petites choses qui pourraient simplement être cumulées, adossées les unes aux autres?
Oui, parce que en fait, finalement, l'expérience qu'elle donne à lire, c'est pas l'expérience du fascisme, c'est l'expérience de la fascisation. Et l'expérience de la fascisation, c'est une expérience de l'infraordinaire, c'est-à-dire des signaux faibles, comme vous le disiez en introduction, Antoine. Et ces signaux faibles, on sait pas les interpréter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, la littérature, elle intervient parce que la littérature ne fixe pas le sens. La littérature, justement, comme le dit Quintane, c'est une hésitation perpétuelle entre le son et le sens. Et justement, il y a des erreurs dans le livre, c'est-à-dire elle se demande par moment si elle ne surinterprète pas, si elle n'est pas en régime surinterprétatif. Et donc, quand on a parlé tout à l'heure de fantaisie réaliste, c'est aussi une fantaisie critique. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de recul aussi sur elle-même. Ça passe par l'humour, comme le soulignait Romain, mais ça passe aussi par de véritables doutes sur, finalement, autant de ces 60 scènes, en fait, d'exercice du sensible et de la sensualité et de l'exercice aussi de la signification. Par exemple, elle arrive à une fête dans la ville dans laquelle elle habite, et elle va au kebab et elle voit une dame voilée à la terrasse, et il n'y a personne autour d'elle. Et tout de suite, en fait, elle se dit « Ah bah oui, voilà, les gens veulent éviter de se retrouver attablés avec cette dame. » Et puis elle repasse quelques heures plus tard, et la terrasse est pleine avec d'autres dames voilées, et elle fait « En fait, non, je me suis trompée. » Donc ce qui est très intéressant, c'est que ce livre n'est pas un livre qui assène des certitudes, mais un livre qui, justement, essaye de faire ce que la littérature a toujours fait, c'est-à-dire poser des questions, et des questions très ouvertes qui sont véritablement très larges, parce que ce qu'elle veut nous donner, c'est en fait nous armer et nous sensibiliser. C'est-à-dire que ce livre, il pratique une sorte de don de la sensibilité, et il veut que nos sens soient éveillés. Et en cela, on peut dire que vraiment, elle est dans un projet qui est à la fois politique, mais on a souvent qualifié Nathalie Quintane de poétesse, même si ses livres, comme il est rappelé en quatrième de couverture de celui-ci, ne portent pas la mention du genre. Mais ici, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce texte donne la possibilité d'un sensible auquel précisément le texte nous prépare.
Ouais, Johan Farber en parlait justement de nous armer, et c'était la question que j'allais vous poser, Romain de Becdelièvre. Est-ce que c'est une boîte à outils pour essayer de justement peut-être comprendre ou sentir ces signaux faibles qui nous amènent à ce mouvement de fascisation?
Oui, alors c'est vraiment une boîte à outils pour sentir. Ouais. C'est vraiment la question de la sensation, elle est très très importante, parce que cette indécidabilité et cette absence de contour du phénomène politique qu'on traverse aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ressent à la lecture. C'est-à-dire il y a un certain nombre de textes, pensez à un texte très mystérieux avec une boule de sopalin froissée, on s'arrête à la lecture, on fait « mais qu'est-ce que j'ai lu ?» quoi. Et il y a plein de sens qui sont ouverts et de choses qui sont lancées, des pistes, des pistes d'interprétation. C'est vraiment un livre de pistes, quoi. Où elle propose des pistes pour essayer de saisir cette chose-là. Et c'est très profond, nous, en tant que lecteurs, parce qu'on s'interroge, on rit, on est inquiété. La question de l'horreur est aussi très présente. Vraiment, est-ce qu'on vit un film d'horreur ? Elle est d'ailleurs elle a une réflexion à un moment, elle dit « il faudrait plus une horreur à la peau qu'une horreur à la Lovecraft. » On vit dans un monde Lovecraftien avec des créatures monstrueuses, et elle dit « en fait, il faudrait plus du pot », c'est-à-dire une forme d'horreur beaucoup plus abstraite. Et oui, c'est donc une écriture du détail qui est très très forte, et ce qui est... On a souvent tendance à, quand on parle de l'histoire de la littérature et de la manière dont les gens écrivent, à opposer le formalisme, c'est-à-dire le travail de la forme, avec la question de l'émotion, c'est-à-dire on ne laisserait pas parler le cœur, entre guillemets, pour aller très vite et parler de manière idiote. Mais là, ce qui est très très fort, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent dans ce texte. Et c'est vrai que chez Quintane, dans l'a priori, le préjugé qu'on peut en avoir, on se dit bon bah c'est des tentatives formelles quoi. Et il y a énormément d'émotions qui sortent de ce texte-là. Je pense à un texte notamment qui parle de Neil Young. Il y a une épigraphe de Bob Dylan, Mr. Jones, où la question c'est il se passe quelque chose mais vous ne savez pas ce que c'est, Mr. Jones. Et elle réfléchit un moment. Il y a une réflexion vraiment sur la mélancolie quoi, sur les années qui passent aussi, sur qu'est-ce qu'on a fait de cette mélancolie-là, comment on la vit, qu'est-ce qu'on en fait politiquement. Et on sent voilà qu'elle se questionne, enfin c'est des vraies questions quoi. Elle nous plonge vraiment dans ces questions-là qui sont aussi traversées par toutes les émotions, la peur, le rire, qui sont des armes aussi pour s'emparer de ce qu'on vit actuellement, parce que c'est ce qu'on vit en fait, c'est la question de la vie qui est là.
Vous l'avez entendu, nos critiques ont été très touchées par l'intelligence et la sensibilité de Nathalie Quintane pour son livre 70 Fantômes, paru aux éditions La Fabrique. Mais un de nos deux critiques a été également touché par un autre livre. C'est le moment de votre coup de cœur, Johan Farber. Quel est-il et pourquoi est-ce que vous avez voulu en parler aujourd'hui dans cette table ronde autour de la littérature et du fascisme ?
Eh bien écoutez, ben oui, effectivement, j'ai eu un coup de cœur pour un livre qui est sorti au mois de septembre et qui me paraissait entrer directement en résonance avec ce dont nous parlions. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on parle du fascisme contemporain. Il m'a semblé qu'il pouvait être utile de parler du livre d'Alexandra Zimmer, Les Zones Grises, enquête familiale à la lisière du Troisième Reich, pour justement poser la question du fascisme historique. Qu'est-ce que le fascisme historique ? Et en prenant justement un angle sur lequel, à partir duquel on n'a pas véritablement questionné ce fascisme historique, en tout cas en France, c'est celui des Sudètes. Et je dirais que pour moi, il y a trois qualités essentielles et pour lesquelles je recommande ce livre, qui pour moi est un livre important. C'est la première question que se pose Alexandra Zimmer, c'est comment hériter de la honte. Elle est professeure en sciences sociales à l'université et un jour, en décembre 23, sa mère lui remet une lettre dans laquelle il y a des titres de propriété autour d'une ville de propriété familiale qui s'appelle Auschwitz. Et elle regarde sur la carte et la carte montre que la ville n'existe pas. À partir de là, se met en branle une enquête familiale et cette enquête familiale, en fait, elle repose sur en fait un tabou, un préjugé et surtout en fait une honte. Elle le dit, je suis descendante d'un peuple colonisateur, je suis descendante d'un peuple collabo, je descends d'une survivante. Et elle va parler de l'histoire de sa mère et de sa grand-mère qui étaient dans ce territoire qui a été annexé, on se souvient, par le Troisième Reich, les Sudètes, et le destin de la mère et de sa mère vont être des destins extrêmement contrariés, des destins pris, on l'a compris, dans la collaboration. Et ce qui est intéressant, et ce qui rejoint la discussion que nous avions à l'instant, c'est que, comme son titre l'indique, les zones grises, c'est un fascisme des zones grises, c'est-à-dire un fascisme où on met l'accent sur une curiosité pour les destins en clair-obscur, comme elle le dit, et notamment pour les histoires micro-familiales à côté de la grande histoire familiale qui permettent, selon elle, de dire encore plus de choses qu'on ne pensait. Et enfin, c'est le troisième et dernier point, c'est pour moi vraiment, je pense, un livre important parce que il propose une enquête coupable. Il y a vraiment un point fondamental, c'est que on a eu une année, on l'a rappelé plusieurs fois ici, traversée par l'enquête avec Adèle Lyon, mon vrai nom est Elisabeth, on a une contre-enquête qui a eu le Goncourt avec Mauvigné, qui ne fait que du roman, et ici on a une sorte d'entre-deux, hein, voilà, de clair-obscur, d'une enquête coupable qui repose, et ça j'invite nos auditeurs et nos auditrices à le lire, sur un dispositif formel qui s'appelle la boîte miroir, qui permet à tous les blessés de regarder leurs membres amputés. Et voilà.
Les zones grises, donc, d'Alexandra Zemmer, c'est paru en septembre aux éditions Bayard. C'est votre coup de cœur, Johan Farber. On passe au deuxième livre. J'ai peur qu'il y ait moins d'accord sur ce deuxième.
Je m'appelle Nerona. Je vais vous raconter mon histoire. Par où commencer? Quelle carte piocher dans le grand jeu du destin? J'entends encore ma grand-mère me dire « Ne réfléchis pas, Nerona, tire une carte ». Je nous revois à la table de la cuisine, la seule table de la maison, grand-ma étalant son vieux tarot. Comme tu détestais que j'hésite. Tu racontais à tout le quartier, « Ma petite Nerona, elle pioche toujours la carte gagnante. » Là où tu es, je sais que tu me regardes, que tu m'entends. Tu m'as appris à faire confiance à mon instinct, à foncer. Toi et moi, on fonce dans le tas comme le taureau de notre signe, tu disais. Tu m'as appris que la seule carte gagnante, c'est la famille. C'est par elle que tout commence. Mon histoire et l'histoire de notre nation.
Je suis en compagnie de Romain de Becdelièvre et Johan Farber pour parler de ce deuxième livre de notre table critique, Nerona d'Hélène Frappa. Alors Nerona, c'est un personnage sorti donc de l'imagination d'Hélène Frappa, romancière, essayiste, critique de cinéma et traductrice. Nerona, c'est une dictatrice blonde qui se fait appeler Monsieur le Prince. Elle pourfend comme il se doit tout ce qui contrevient à la norme, s'affiche bien sûr climato-sceptique et anti-intellectuelle, anti-élite. Et elle a fait du feu son emblème après avoir provoqué un incendie dans l'appartement familial quand elle était petite. Le tableau est complet et tout désigne une caricature, une farce de la dirigeante italienne Giorgia Meloni, tournée ici évidemment en ridicule. Romain de Becdelièvre, est-ce que cette farce vous a fait rire ?
Alors rire pas spécialement, même si c'est un peu l'objet de ce livre, une satire. Je l'ai plus lu comme une plongée dans une matière et un discours dans lequel on baigne actuellement, qui est donc ce discours de type fasciste, autoritaire, et qu'elle propose comme ça un texte assez frontal et qui tend vers une forme de mythologie qui, moi, m'a intéressé et qui saisit vraiment des enjeux de cette puissance politique-là aujourd'hui. Ouais.
Johan Farber, ce texte vous a touché, vous a fait rire ?
Non, parce que, en fait... J'ai été un petit peu déçu parce que j'avais beaucoup aimé les deux précédents textes d'Hélène Frappa, Trois femmes disparaissent et Gaslighting. Et là, je trouve qu'elle s'intéresse une fois de plus au rapport des femmes et du pouvoir. Mais il m'a semblé que quand elle donne le pouvoir à la femme, il est caricatural et qu'elle nous présente une dystopie qui est en fait en retard sur notre époque, ce qui est un petit peu gênant quand on veut faire une dystopie.
Ouais, Romain, c'est toujours, c'est vrai, très délicat, une dystopie qui part d'un personnage historique contemporain, ici donc Giorgia Meloni. Est-ce que Hélène Frappa arrive à s'en sortir ?
Alors c'est intéressant, oui, qu'elle s'empare de Giorgia Meloni, et c'est dangereux, c'est toujours, on est sur des charbons
ardents. Très risqué.
Très risqué. Et donc cette figure de dictatrice blonde, donc Giorgia Meloni, donc qui est donc une femme, elle va s'en sortir, moi je trouve, par justement cet appel à l'Empire romain et à l'Antiquité, qui est à la fois absolument archaïque et très contemporain. Par exemple, on sait qu'Elon Musk est fasciné par l'Empire romain. Enfin, ils sont tous fascinés par l'Empire et depuis très longtemps. Le salut nazi, le salut romain, enfin voilà. Et donc là, elle va s'emparer de cette figure-là. Alors moi, ce qui m'a m'a absolument frappé et qui rompt absolument avec les textes précédents. Je pense notamment à Trois femmes disparaissent. On avait une enquêtrice, on avait vraiment une narratrice qui nous tenait et qui tenait un fil d'enquête, etc. C'est que là, le fil n'existe absolument pas. C'est-à-dire, chaque chapitre de ce livre, c'est du discours, c'est quelqu'un qui parle, c'est un extrait de publicité, c'est un extrait de télévision, c'est un entretien à la télévision ou c'est Neurona qui parle. Donc, on n'a pas de narrateur. Donc, c'est une matière qui est absolument théâtrale. On pense vraiment à des formes théâtrales. J'ai pensé à, c'est bizarre, à l'In Your Face théâtre, le tout le courant anglais de Sarah Kane et compagnie. Ce qu'on pourrait traduire par le théâtre dans ta tête, quoi. Mm-hmm. Elle a vraiment ce geste-là. C'est-à-dire, elle dit, bon, ben voilà, plongeons vraiment dans cette matière-là et immergeons-nous là-dedans. Donc, on n'a pas de guide. Et donc, on est perdu. Et elle va donc tisser cette figure de Neurona avec toutes ses ambiguïtés. Elle va se coltiner, donc, tout ce discours qui est le discours qu'on entend un peu partout, c'est-à-dire anti-intellectuel, vous l'avez dit, machiste, même si elle est une femme, et anti-migrant, etc. Et donc elle va le satiriser, mais elle va le tisser avec d'autres récits, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire là, il y a l'effondrement d'un pont à Gênes, par exemple, et une mère qui va vouloir récupérer la dépouille de son fils. Et elle va comme ça tresser des ponts, et moi c'est dans le tressage et le montage de ces scènes différentes et de discours différents que j'ai trouvé qu'il y avait une force qui était assez mythologique et qui ouvrait vers des sens possibles qui justement restent ouverts.
Johan Farber, est-ce que c'est cette absence de lien qui vous a laissé un peu en dehors de ce livre?
Bah, peut-être, cette absence de lien. Moi, je suis assez d'accord avec Romain. Les parties les plus intéressantes sont celles qui font appel à l'Empire romain, à tout le césarisme. Et je pense que c'est peut-être ce que j'attendais trop de ce livre. C'était une exploration quand j'ai lu Néron. Quand j'ai vu Nérona, je me suis dit peut-être ça allait être transformé une sorte de péplum fasciste. Et c'était pas le cas, mais je pense qu'il y a un contresens politique à l'origine de cette satire qui, pour moi, en fait, me pose problème parce que je pense que Nathalie Quintane est beaucoup plus juste quand elle étudie le fascisme comme un processus et non pas comme un produit fini, c'est-à-dire comme une fascisation. Et là, en fait, pour faire une caricature et une satire, il faut que les traits soient parfaitement affirmés. Et donc, il faut déclarer qu'on est dans le fascisme. Or, le livre ne propose pas grand-chose dans cette dimension-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il propose des scénettes. Il propose en fait des scénettes. Et ces scénettes, en fait, on peine en fait à les relier et on peine à essayer de dégager le discours. C'est-à-dire que on voit bien, hein, les critiques de cinéma, on voit bien qu'il y a quelque chose du dictateur en catastrophique de Chaplin. On voit bien qu'il y a toute cette veine, effectivement, humoristique. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire de son héroïne. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait la force de son œuvre jusqu'à présent, c'est d'étudier la manière dont les femmes sont sous la coupe du pouvoir. Et ici, quand il y a le retournement et le renversement où la femme a le pouvoir, elle devient forcément caricaturale, elle devient forcément injuste. Bref, j'ai pas très bien compris, en fait, pourquoi il y avait cette manière de présenter les choses. Et puis, j'ai l'impression que le fascisme a un peu gaslighté totalement le dispositif et que, de fait, par moments, il y a de très belles pages, hein, parce que c'est toujours extrêmement bien écrit. Il y a notamment l'introduction, tout le début du livre est très très fort. Mais je pense qu'en fait, pour un livre qui se veut politique, je ne peux pas vous dire le propos qu'elle veut tenir. Je ne peux pas en fait synthétiser le propos qu'elle veut tenir. Et même si elle ne veut pas tenir de propos, je ne peux pas vous le dire puisque j'ai absolument pas saisi où elle voulait en venir. Et quand je parlais tout à l'heure de la dystopie, il est vrai que quelque chose a commencé qui n'aurait pas dû commencer, dans lequel nous vivons tous. Et en fait, elle nous présente les choses d'une manière un petit peu folklorique, et moi c'est ça qui m'a gêné. C'est-à-dire que dans la satire, il y a le feu, vous avez dit, c'est le nom de son parti, elle parle de l'unité, mais en fait elle est en retard sur la perception du fascisme. C'est-à-dire que tout ce dont elle parle, c'est tout ce dont en fait on aurait pu parler en 1940 et pas en 2025. En 2025, les choses sont beaucoup plus floues, les choses sont beaucoup plus retorses, et précisément quand elle s'attaque au wokisme, ben on a l'impression d'être au café de la gare, avec un comique qui se moque au point virgule, avec un comique qui se moque du wokisme. Et je me suis dit, bon, le théâtre des deux ânes, bon, ça va bien deux minutes, parce que je trouve que ça, c'est, en fait, c'est l'absence du propos, mais il y a toujours, vous voyez, quand même, je suis positif, il y a quand même toujours cette force d'écriture qui l'anime et qui, quand même, ne rend pas du tout la lecture ennuyeuse. Moi, c'est plutôt sur la défection du projet politique que j'ai pas compris, hein, le livre, mais, je veux dire, ça reste quand même une lecture divertissante, je veux dire. On peut pas s'ennuyer en lisant Neurona, c'est faux de dire ça reste quand même un objet de divertissement, voilà.
Neurona, évidemment, évocation de l'empereur Néron au féminin, au destin tragique. Comment ouvre Hélène Frappa notre avenir? Parce que l'idée de cette caricature, c'est évidemment un miroir tendu sur le présent, mais on imagine que c'est également une ouverture sur l'avenir. Comment est-ce qu'elle voit notre avenir?
Ah, je sais pas si je l'ai pas lu comme une ouverture sur l'avenir, mais pour répondre à Johan, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de, en se saisissant de cette figure féminine, qui était aussi le discours de Giorgia Meloni, qu'elle a prononcé à un moment où elle dit « je suis une femme, je suis catholique », etc. On sent qu'elle s'était beaucoup appuyée là-dessus. Elle, quand même, elle attrape quelque chose qui est actuel et qui est une sorte de monstre contemporain qu'on appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire tout ce mouvement politique de femmes qui se revendiquent comme nationalistes. Et là, ça, c'est quelque chose qu'elle prend à bras le corps et qui est quelque chose qui gêne actuellement le pouvoir. Moi, je l'ai lu. Alors, la question de l'avenir, c'est intéressant. Je l'ai lu comme un prologue, parce que le texte est très, très court. C'est assez étonnant. Moi aussi, je pouvais m'attendre à une espèce de grande satire, un peu une fresque, quoi. Et je l'ai vu un prologue à quelque chose, quoi. On sent qu'elle s'intéresse à cette personnalité autoritaire-là et la fonction... Et que ça ouvre sur quelque chose. Je sais pas quoi. Enfin, ça m'a ouvert sur une question. Sur où est-ce qu'on va avec tout ça. Il y a d'ailleurs cette histoire de pont. À un moment, elle propose de construire un pont, justement, qui... irait vers la Sicile pour déposer les migrants, qui est un projet, voilà. Et à ce pont, on ne sait pas où il va. Et c'est vraiment ça qu'elle propose, moi, je trouve, d'une certaine manière, et qui est très fort. Et après, moi, là où je trouve que la satire est extrêmement forte, c'est à la fin. Alors, je ne sais pas si on va la dévoiler maintenant, mais c'est le moment où, en gros, Nerona, on est dans son discours, et il lui arrive quelque chose qui est de l'ordre du feu, quoi. Et avec ce fantasme, et qui est le fantasme fascisme par excellence, et là, elle le met sur la table, c'est la question de que je meure et que tout le peuple meure avec moi. C'est le dernier télégramme d'Hitler qui disait ça, quoi. Et là, on a cette chose-là. Et là, elle le saisit avec une espèce de rire qui n'est pas du tout un rire Théâtre des Deux Ânes, mais plus un rire diabolique et apocalyptique. Et là, on est... Ouais, on peut que être saisi. Parce que ce qu'elle appréhende avec ce rire-là, c'est aussi cette disparition-là, avec un rire inquiétant, quoi.
Johan Farber, quelque chose à ajouter? Un dernier mot,
je trouve que ça relève un petit peu de tout ce qu'on appelait dans les années 90 la littérature ludique, et que peut-être le temps n'est plus assez satire, et que il est peut-être à plus de prudence, et que la satire, c'est quand même l'art de l'imprudence. Il est courageux, mais bon, voilà, moi j'ai pas été personnellement convaincu.
Par ce livre donc d'Hélène Frappa, Nerona, qui parut chez Actes Sud. On a également évoqué ce précédent livre de Nathalie Quintane, 70 fantômes, qui a passionné nos critiques. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos avis, vos lectures, vos plaisirs, vos déplaisirs. Romain Bec de Lièvre et Johan Farber, merci d'avoir été avec nous pour ces midis de culture. Je recevrai à 13h l'autrice Chloé Corman pour son livre Mettre au monde, un livre sensible et sensoriel, on en parlera avec elle. Il est midi 28 sur France Culture.